Bonjour d'abord, et puis je tenais à vous remercier, en tout cas remercier la librairie Filigrane pour son invitation. Je viens du sud de la France, alors c'est vrai que je suis ravie d'être parmi vous. Je suis également contente parce qu'il y a quelque temps, j'étais à la Foire du Livre de Bruxelles et je prends toujours plaisir à être sur le sol belge. J'aime beaucoup Bruxelles et je trouve que c'est une très belle ville. Et en plus, on y mange bien, donc ça n'enlève rien au plaisir. Eh bien écoutez, j'ai vraiment la joie de vous présenter aujourd'hui la collection La Philo ouverte à tous. C'est une collection, effectivement, qui est née de l'idée que, comme j'enseigne à l'université à Toulon, alors je suis en faculté de droit, j'ai des étudiants tout à fait classiques, je suis professeure de philosophie politique, et parallèlement à ça, j'enseigne la philosophie générale et politique à des adultes, c'est-à-dire à des seniors. On a monté une université du temps libre, je suis responsable pédagogique des programmes, et également, on a 750 inscrits seniors de 19 à 91 ans qui participent à nos cours. Donc, ils sont heureux d'être parmi nous, puisqu'ils se réinscrivent d'une année sur l'autre maintenant. Et j'ai eu l'idée de créer pour eux des ouvrages de philosophie, tout simplement parce que quand on a 60, 70, 75 ans, etc., on ne passe pas le baccalauréat, on n'est pas en concours, on n'est pas non plus dans l'idée de préparer une épreuve particulière. Mais par contre, la vie nous a peut-être fait subir des épreuves et on a envie de peut-être prendre un peu le temps d'un recul pour réfléchir, réfléchir à soi, réfléchir à autrui, réfléchir à plein d'autres choses. Donc j'ai eu l'idée de créer cette collection d'ouvrages accessibles à tous. Pourquoi de 7 à 97 ans, 97 ans ? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, mon étudiant le plus âgé a 91 ans. Et quand j'ai dit que ça s'arrêtait à 90 ans, il m'a dit « je ne vous lirai pas parce que j'ai déjà un an de plus ». Alors j'ai dit « écoutez, j'augmente à 97 ans, comme ça vous pourrez me lire plusieurs fois ». Donc, comme je savais que je créais une collection, je me suis dit « c'est dommage de lire le tome 1 et de ne pas vouloir se consacrer à la suite ». Et donc, les ouvrages se présentent ainsi. Donc maintenant, je vous présente le tome 1, mais il y a déjà 3 tomes qui sont parus. Donc le « Pourquoi philosopher », c'est maintenant. Après, il y a « Voir et penser de l'œil à l'esprit ». Le troisième tome qui est paru, c'est « Le Dieu des philosophes ». Et le quatrième tome qui paraît maintenant dans 15 jours, c'est « L'homme bouleversé ». Voilà, pour que vous sachiez un peu la démarche. Les essais peuvent se lire dans le désordre, puisque à chaque fois, l'écrit est terminé. Ce sont des petits essais sur la société d'aujourd'hui. Et en même temps, je fais des liens avec les grands philosophes pour que mes lecteurs aient une culture philosophique. Bien sûr, dès que je cite un philosophe, comme on n'est pas tous non plus des érudits en philosophie, en bas de page, je mets toujours une petite bibliographie qui permet de savoir qui est l'auteur, de le situer dans le temps et de savoir quel est l'intérêt véritablement de ses travaux. De la même manière que lorsque j'aborde un concept, comme ces concepts sont parfois difficiles à comprendre, je les traduis par un mot usuel que nous utilisons régulièrement dans notre langage commun, de manière à ce qu'il n'y ait aucune difficulté d'interprétation et de compréhension. Donc vous pouvez prendre le livre, aller dans un parc, prendre le plaisir de vous installer dans un lieu sans être entouré de manuels particuliers pour pouvoir accéder à des grands concepts philosophiques. Ensuite, j'avais pour idée que la philosophie, c'est pas quelque chose, en tout cas, c'est pas dans mon état d'esprit, c'est pas quelque chose que l'on doit pratiquer seul, enfermé dans un bureau, parce que je trouve que c'est triste, c'est passé à côté de l'histoire de la philosophie qui a toujours mis les philosophes au cœur de la cité. Et donc, dans mes ouvrages, j'ai créé un petit logo, c'est une petite chouette qui est représentée à l'intérieur du livre. Et sous chaque chouette, vous pourrez repérer une petite indication qui permet de se situer dans la lecture. Et chaque petit paragraphe est déterminé, ou en tout cas délimité, par la grosse chouette suivie d'une référence, et à la fin du paragraphe, la mini-chouette. Si vous mettez ces paragraphes bout à bout et que vous photocopiez par exemple ces paragraphes, vous avez un ouvrage pour des enfants, pour des adolescents. Donc c'est très intéressant de pouvoir aborder des questions de la société d'aujourd'hui, des moments peut-être dans lesquels il y a des choses à remettre en question avec des enfants, parce que ces enfants, s'intéressent à la philosophie, si on n'utilise pas de termes barbares pour développer cette discipline, et surtout si on leur explique que la philosophie, ça correspond aussi à la vie de tous les jours. Voilà en gros pour le concept. En fin d'ouvrage, vous pourrez aussi remarquer qu'il y a des questions qui sont posées. Ça vous permet, une fois que vous avez lu, soit de vous amuser à répondre à des petits quiz de manière à vérifier si vous avez saisi l'intégralité des concepts ou des notions qui sont développées. Et puis en même temps, parce que ça se fait beaucoup maintenant, on peut organiser des soirées thématiques. Il se fait beaucoup les soirées thématiques littéraires, notamment, où vous pouvez inviter quelques amis autour d'un verre. Et bien là, j'ai posé des questions philosophiques. Là, pareil, vous faites circuler la parole autour de vous. Chacun répond à sa manière à ces questions. Vous organisez donc un café philosophique à la maison. Et à la fin, pareil, vous lisez les paragraphes entre les chouettes et ça donne des réponses philosophiques. Et ça permet, en fin de compte, de clore le débat sur une question philosophique particulière. Parce qu'à chaque fois, il y a plusieurs questions qui sont posées dans chacun des volumes. Alors, le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est pourquoi philosopher ? La question est essentielle parce que je sais qu'en Belgique, vous n'avez pas de cours de philosophie spécifiquement parlant. Nous, en France, nous développons la philosophie en classe de terminale et nous réalisons que nos étudiants sont très souvent en questionnement après la classe de terminale. Pourquoi n'en faire qu'un an ? Pourquoi ne pas développer davantage de philosophie ? Alors qu'on utilise le terme philosophie un peu dans tous les domaines. La philosophie du management, l'épistémologie, c'est-à-dire la philosophie des sciences pour les écoles d'ingénieurs. On parle de la philosophie politique ou la philosophie du droit dès qu'on intègre d'autres types d'études. Donc finalement, on se dit la philosophie est partout. Et c'est certain, elle est partout parce que quand on veut la définir, eh bien ça vient du terme philo et sophia, philein de aimer et sophia la sagesse. Donc celui qui pratique la philosophie, c'est celui qui aime la sagesse. Et la sagesse, ça renvoie à deux définitions en fait. La sagesse, c'est celui qui est sage, qui veut, entre guillemets, diriger sa conduite et s'appliquer lorsqu'il agit. Et c'est aussi la sapienza, c'est-à-dire le savoir. Donc dans l'Antiquité, il n'était pas étonnant de trouver parmi les philosophes des scientifiques, des physiciens, c'est-à-dire ceux qui s'occupaient de science, mais aussi des politiciens, c'est-à-dire ceux qui allaient s'occuper des affaires de la cité, de la citoyenneté. Donc voilà en gros pour définir ce qu'est cette philosophie, amour de la sagesse. Et vous l'avez compris, si je suis l'ami de la sagesse, ça veut dire que je ne suis pas sage moi-même et que donc j'ai quelques progrès à faire. Et j'en suis persuadée, même si j'écris de la philosophie, j'ai encore des progrès à faire en termes de sagesse. C'est-à-dire que si je veux m'orienter vers le savoir, eh bien, il va falloir que j'adopte, entre guillemets, une attitude particulière. Et quand j'ai résumé mon propos en disant que dans le pourquoi philosopher, il y avait la question des trois âges de la philosophie, eh bien, c'était pour moi essentiel que de vous expliquer qu'il y a trois âges dans l'étape, ou en tout cas dans l'évolution d'un homme. Alors, si on veut reprendre un peu d'histoire de la philosophie, c'est ce que je développe dans le premier chapitre du pourquoi philosopher. Eh bien, en fait, j'explique que la philosophie n'est pas née en un seul jour. On trouve des concepts philosophiques qui ont émergé déjà en Égypte, qui ont voyagé dans la Méditerranée. En Chine, on faisait également de la philosophie. Mais on va considérer que le vrai miracle grec correspond à cette période particulière dans laquelle on a vu les philosophes grecs aborder la question d'un discours logos, rationnel, c'est-à-dire quand on a commencé à poser les grandes questions d'un point de vue rationnel et non pas simplement superstitieux. C'est-à-dire que dans l'Égypte antique, c'est vrai qu'on retrouve non seulement des liens aux religieux, et on a des prêtresses, on a des lieux particuliers de culte, et en voyageant en Méditerranée, les grands concepts vont tout simplement prendre une autre dimension. C'est pour ça qu'on dit que le miracle est grec, parce qu'en Grèce, on assiste à l'émergence de la philosophie. Et quand je parle d'émergence, je veux dire tout simplement que la philosophie se détachera du religieux. Alors, la symbolique est simple, si on veut la résumer rapidement. Les hommes se sont rendus compte qu'ils ont été jetés dans un monde. C'est-à-dire qu'on pose la question dans l'Antiquité ou aujourd'hui, c'est la même chose. Pourquoi j'existe et qu'est-ce que je fais là, en quelque sorte ? Voilà comment les Grecs ont les premiers formulé la question « Pourquoi y a-t-il de l'être ? Pourquoi y a-t-il quelque chose ? Pourquoi suis-je là ?» Et à cette question qui renvoie à l'étonnement premier, on voit apparaître différents types de pensées et émergent à ce moment-là différentes façons de répondre. La première, qui est la plus simple, on va dire, c'est celle qui est culturelle et en même temps cultuelle, j'ai envie de vous dire, c'est-à-dire répondre par les dieux. Il faut savoir que les hommes jetés dans le monde se sont dit que s'ils existaient, c'est qu'il y avait une force toute-puissante ou des forces toute-puissantes qui les avaient créées, engendrées, et qui avaient également engendré le cosmos. Et on parle d'une cosmogonie. Alors on remarque que dans l'Antiquité, il y a deux types d'aspects religieux. La cosmogonie qui explique l'émergence du monde avec Gaïa, donc la Terre, Chronos, Uranos, donc ces grandes divinités qui ont fait émerger du chaos un sens, un ordre, une temporalité. Et de l'autre côté, les divinités qui répondent à une superstition, je pense cette fois-ci à des divinités représentées, Zeus, le père des dieux. Et ces divinités, en quelque sorte, eh bien là, sont les modèles de la vie des hommes, mais des modèles symbolisés, puisque non seulement ils ressemblent aux hommes, mais ils vivent un peu comme les hommes. Quand on lit la mythologie, ça nous raconte bien sûr l'histoire des divinités, mais on voit que les déesses sont particulièrement perfides, on assiste à des scènes de jalousie entre les dieux, il y a quelques règlements de compte, et donc les hommes ont créé les dieux en quelque sorte à leur image. Dans l'Antiquité, on n'écrit pas, et on parle, on transmet. Et l'oralité, ce sera le moyen pour tous ces, comment dire, religieux de transmettre petit à petit cette mythologie pour qu'elle puisse prendre corps au sein de la cité, pour devenir finalement un moyen de partager une religion. Religere, ça veut dire relier les hommes entre eux. Et c'est intéressant de considérer que dans l'Antiquité, le lieu où les divinités ont émergé, ou en tout cas le lieu où elles étaient célébrées, c'est Delphes, et non pas Athènes, qui est représentée comme étant le lieu de la philosophie. Delphes, c'est le lieu où il y a toute une symbolique religieuse, bien sûr, qui est posée. Le lieu est légendaire, le lieu est magique. C'est l'endroit où Zeus a percuté Apollon et tombé au centre du sol. Eh bien, on a trouvé une pierre, l'omphalos, le nombril de la terre. Et autour de ce nombril, eh bien, les collines, un écrin de verdure avec des oliviers. Et c'est là qu'on a bâti le site de Delphes, un site religieux où on venait rendre des oracles, enfin on venait demander les oracles à la Pythie, on l'interrogeait et on espérait bien sûr trouver des réponses, en tout cas, soit des réponses à une superstition, soit les plus grands se présentaient devant la Pythie, tout simplement pour savoir quel allait être leur avenir d'hommes sages ou tout simplement de guerriers, parce qu'il y avait à ce moment-là des guerres, notamment entre Athènes et Sparte. Donc voilà comment est né le phénomène religieux. Un phénomène religieux qui est dans l'oralité et qui va amener, en fin de compte, progressivement à une compréhension des dieux, non seulement par rapport à la mythologie et la superstition, mais aussi par rapport à la question du titon en grec. Qu'est-ce que l'être? D'où venons-nous? Et qu'est-ce qui a fait que cet être, ou en tout cas cet être premier, a engendré la totalité de ce qui existe? La question est encore moderne aujourd'hui quand on demande d'où venons-nous. Eh bien, il y a ceux qui répondront par un arbre généalogique, en quelque sorte, et puis il y a ceux qui évoqueront soit le mystère de Dieu, soit ceux qui poseront tout simplement une cause première, une rationalité qui aura permis au monde d'émerger, au lieu que ce soit le chaos, eh bien, on veut voir de l'ordre dans la totalité des choses et des êtres. Mais, quelque part, ça ne pouvait pas satisfaire l'esprit des philosophes, tout simplement parce qu'à ce moment-là, on était un peu trop orienté vers le religieux. Et il fallait poser la question autrement. Et à partir de ce moment-là, on considère que ce sera la pensée des présocratiques. Les présocratiques, ce sont les philosophes qui existent avant ou pendant la vie de Socrate et qui poseront la question, également la même, Titoon, d'où venons-nous? Pourquoi y a-t-il de l'être? Mais qui ne répondront pas par des dieux, mais tout simplement par les grands éléments. Et les éléments, ben, c'est l'eau, la terre, le feu, l'air. Et un autre élément qui est peu connu, c'est l'apeiron, c'est-à-dire l'infini ou indéfini. Ça dépend comment on le situe dans une pensée. Donc ça veut dire qu'on envisageait, par exemple Thalès, qu'il y avait de l'eau, que la terre flottait sur l'eau, que quand il pleuvait, cela permettait d'alimenter les cultures, que quand on se coupait, on se rendait compte que le sang était liquide, etc. etc. Donc tout était en rapport avec l'eau. D'autres ont pensé par rapport à l'air, etc., enfin les autres éléments premiers. Et à partir de ce moment-là est née la physis, c'est-à-dire la nature, la compréhension de la nature qui donnera plus tard la physique, c'est-à-dire tout ce qui permettra de comprendre, lorsqu'on aura mathématisé l'univers, eh bien tout simplement les lois qui régissent l'organisation de la totalité. Donc vous l'avez compris, d'un côté le religieux, d'un côté le questionnement dans un lieu sacré, Delphes, de l'autre côté, des philosophes, des penseurs qui vont voyager dans la Méditerranée, Grèce, bien sûr, la Sicile, l'Italie, vont transmettre des textes, interroger, rencontrer les grands penseurs de leur temps et vont à ce moment-là répondre à la philosophie, la question de l'origine, pardon, par une physique des éléments. Les troisièmes, c'est ce qu'on appelle les philosophes, ce sont ceux qui vont amener une théologie, théologos en grec, ça veut dire un discours rationnel sur la science de Dieu, c'est-à-dire pas sur la superstition, c'est-à-dire que là, on parlera d'une cause première qui est à l'origine de la totalité. Ce qui permet finalement de comprendre la pensée de Platon ou d'Aristote, qui pose déjà des grands systèmes. Platon, c'est celui qui va envisager un arrière-monde des idées, il va imaginer des archétypes, il va poser un démiurge qui est à l'origine de la totalité. Et puis vous avez Aristote, son disciple, qui posera un dieu premier, un premier moteur, qui mettra le mouvement dans le monde pour que les choses s'organisent, s'agencent et se placent à partir d'une force dérivative, c'est-à-dire dieu premier, et tout s'enchaîne. Qu'est-ce qui caractérise cet esprit qui résume rapidement, en fait, hein, ces trois premiers piliers de la pensée, la science, le religieux et la philosophie? Eh bien, c'est l'étonnement. La première étape de l'homme, comme la première étape de la philosophie, c'est l'étonnement. Et en grec, l'étonnement, ça veut dire qu'on est frappé de stupeur. Le grec n'est pas un trouillard. Dès qu'il observe un événement particulier dans la nature, la foudre qui tombe sur un arbre, il se rend au pied de l'arbre pour voir comment ça se passe. Il observe l'eau, hein, rappelez-vous, hein, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve, c'est-à-dire qu'on observe ce mouvement et on comprend qu'il y a du mouvement, du changement dans les événements. Et donc on s'interroge, on questionne. Et être frappé de stupeur, ça veut dire aussi qu'on passe à côté de l'habitude. L'habitude, c'est peut-être néfaste à la pensée. On a tellement l'habitude que les choses se produisent comme ceci ou comme cela qu'on ne les interroge plus. Un autre philosophe reprendra cette idée, c'est David Hume. Alors là, on fait un bond en avant, c'est le XVIIIe siècle. Et David Hume, c'est celui qui dira, eh bien, finalement, on est tellement habitué aux événements et à la production, à l'identique des événements, qu'on banalise l'univers. Par exemple, on va dire que le soleil se couche ou qu'il se lève, parce qu'on va le calquer sur nos vies, parce que moi-même, je me couche ou je me lève le matin, alors qu'en fin de compte, le soleil ne se couche pas de la même manière qu'il ne se lève pas. Lui, il est tout simplement dans son cycle physique et cela n'a rien à voir avec la conception humaine qu'on appelle d'ailleurs en grec une doxologie, c'est-à-dire tout ce qui rejoint l'opinion. Practicologique, ça veut dire que c'est pratique. C'est pratique de dire le soleil se lève plutôt que d'expliquer toute une théorie de la physique de l'univers pour raconter l'événement. Donc voilà, vous l'avez compris, quelle est la première étape de la philosophie? L'étonnement. Et j'ai envie de dire, si on fait un lien avec l'enfance, eh bien l'étonnement est là. Les enfants interrogent, pourquoi c'est comme si? Et quand on a répondu, ils vous disent, oui, mais pourquoi? C'est-à-dire qu'on va chercher encore plus loin, parce que justement, ça ne va pas de soi, parce que les choses ne sont pas aussi faciles à discerner, et puis parce qu'il faut que l'esprit se construise. Et pour qu'il y ait construction intellectuelle, eh bien, il faut remettre en question, et puis il faut aller chercher plus loin que ce que nous diront les adultes, tout simplement. Voilà, donc la première étape, qui dure quand même considérablement. Je pourrais vous parler de l'Antiquité grecque pendant des heures parce que c'est vraiment la période fondatrice de la philosophie. Et c'est quand même merveilleux et prodigieux tous les grands concepts qui ont été abordés. L'être, c'est-à-dire la totalité des choses, le néant, et ça aussi, c'est quelque chose qui interpelle l'esprit. Vous avez aussi la problématique des multiples. Il y a l'être premier et tous les multiples, c'est-à-dire tout ce qui existe en dehors de l'être premier. Ça donne des problématiques parfois complexes. On peut tout à fait les simplifier. Moi, c'est ce que j'ai voulu faire dans mon ouvrage, aborder avec simplicité les grands concepts, mais en même temps, conserver, si vous voulez, cette approche conceptuelle, on va dire, de l'univers. Voilà. Donc, ça, c'est l'Antiquité, c'est l'étonnement, c'est le moment où le grec est frappé de stupeur. Il a déjà saisi les grands principes. Rappelez-vous Démocrite qui parle des atomes. Dans l'Antiquité, c'est prodigieux. Vous avez Empédocle qui vous parle d'une théorie des contraires, donc en parlant tout simplement de l'amour et de la haine, en disant dans l'univers, les choses se créent par, comment dire, osmose, combinatoire, ou se séparent par haine, c'est-à-dire lorsqu'ils ne s'entendent plus, mais ça se recrée toujours à l'infini. Eh bien, vous entendez Lavoisier disant rien ne se perd, tout se transforme. C'est-à-dire que rien n'a été, comment dire, perdu de cette première pensée grecque qui avait intuitionné les plus grands principes dont on ne sait toujours pas, en quelque sorte, détaché aujourd'hui. Et puis cet étonnement philosophique, il sert aussi à poser une éthique de la conduite. Lorsque j'agis, lorsque je le fais avec philosophie, eh bien je me mets à distance, on va dire, de tout ce qui pourrait être simpliste. Lorsque j'invite aujourd'hui à faire de la philosophie, c'est parce qu'on se rend compte que la télévision présente des clichés. Vous avez aussi des journaux télévisés, par exemple, qui présentent un axe particulier de développement, et il n'y a pas véritablement de place pour la contradiction. Et justement, peut-être que philosopher, c'est-à-dire user de son esprit pour réfléchir, eh bien, c'est aussi se mettre à distance de toutes ces pensées préfabriquées, et c'est récupérer aussi une liberté intellectuelle. Voilà, c'est reprendre possession de sa pensée. Voilà la première étape qui est l'étonnement. Deuxième moment dans cette histoire de la philosophie qui est passionnant. Alors là, on fait un bond en avant et on entre dans la philosophie cartésienne, c'est-à-dire chez notre ami Descartes. Alors Descartes, c'est un drôle de phénomène comme personnage. Déjà, c'est un philosophe qui, en France, on nous dit toujours « vous avez l'esprit cartésien, vous êtes rationaliste, vous êtes carré ». Et on oublie des épisodes de la vie de Descartes. Descartes, c'est un penseur qui a eu en songe la révélation de sa philosophie. Donc on est plutôt du domaine d'une expérience particulière plutôt que d'une expérience de rationalité. Comment ça se produit? C'est simple, je vais faire bref, mais il faut quand même connaître l'anecdote. D'ailleurs, vous la retrouvez dans un autre ouvrage. Alors ce qui est intéressant, c'est de savoir que Descartes est né avec des problèmes de santé. Très tôt, il était obligé d'être alité et il a reçu, comme il dit lui-même, bon nombre d'enseignements dans son lit. Il dit « j'ai été nourri aux lettres », c'est-à-dire qu'il n'a pas eu besoin de se rendre à l'école ou au lycée comme tous ses camarades. Il a commencé à étudier tranquillement dans son lit. Et puis, il s'est vu recevoir des enseignements qui, à un moment donné, sont devenus contradictoires. Pourquoi contradictoires? Parce que, tout simplement, au XVIe siècle, eh bien, il y avait différentes théories. On était dans une théorie de la machine, l'univers machine. D'un autre côté, on parlait d'un univers physique. D'un autre côté, on venait de découvrir, on venait plutôt de réaliser le microscope, et donc on arrivait à voir un infiniment petit, et on venait d'assister à ce que dit Leibniz, un emboîtement des germes, c'est-à-dire qu'on avait vu au microscope la reproduction. De la même manière, en 1607, on a créé les verres de lunettes, et on avait créé la lunette astronomique. 1610, on commence à observer les astres, et à nommer les cratères, etc. Donc on est dans une époque où, d'un point de vue scientifique, on a l'infiniment petit qui était invisible aux yeux, qui le devient, pas tout bien sûr, mais des choses qu'on ne voyait pas d'un coup deviennent visibles, de l'infiniment grand peut-être accessible aussi à la vue, on a découvert le vivant qui est dans la spontanéité, et en même temps il y a encore des philosophes qui vous parlent d'une théorie mécanique de l'univers, de rouage de l'univers, et donc Descartes à un moment donné se dit « mais où est la vérité ? Je reçois des enseignements ». Jusqu'à présent, je les ai reçus avec beaucoup de discipline, avec beaucoup, d'écoute. Je me suis passionnée par ce que mes enseignants m'ont transmis. Mais là, ça se contredit. Où est la vérité? Et il se rend compte, à partir d'un certain moment, que finalement, il a envie de quitter son lit, il a envie de quitter sa chambre, il a envie d'aller se rendre compte par lui-même. Et il se dit, eh bien, que vais-je faire? Et là, vous allez voir, c'est très surprenant. On pourrait penser qu'il part en voyage, tout simplement. Eh bien, pas du tout. Il décide de se préparer à devenir militaire. Il intègre une école militaire. Il apprend à se battre, à utiliser un fusil, bien sûr monté à cheval. Et puis, il intègre les troupes des armées de Nassau. Ce qui est intéressant, c'est qu'il pose ses conditions. Il dit « moi, je veux bien être militaire, mais... » Vous savez qu'il était rentier, donc il n'avait pas besoin d'argent. Il dit comme ça « mais je ne veux pas me battre. » Je ne veux pas faire de corvée, je ne veux pas toucher ma solde, mais enfin bon, il voulait bien voyager avec les troupes. Donc ils partent comme ça, ils traversent l'Europe, jusqu'au moment où on sait qu'il est de santé fragile, arrive un épisode d'une tempête effroyable, il arrive dans la ville de Neubourg, et là il décide d'abandonner les troupes qui étaient en sa compagnie, tout simplement parce qu'il a peur de tomber malade, et il se réfugie dans une petite auberge, dans une pièce qui s'appelle un poêle, parce que c'était chauffé simplement par un poêle. Et c'est dans cette pièce, dans la nuit, alors qu'il est encore à moitié comateux et pas complètement endormi, qu'il va avoir, comme ça, en songe, l'ensemble de sa philosophie. Et c'est là qu'effectivement, il va décider d'écrire, de remettre en question l'ensemble des connaissances qu'il avait apprises comme ça, c'est-à-dire qu'il avait reçues, et qu'il avait intégré en lui comme une éponge absorberait l'eau. Et puis il se dit, il va falloir que je remette en question tout ce que j'ai appris de manière à découvrir la vérité. Et donc la deuxième étape de la philosophie, qui correspond également à la deuxième étape de l'évolution d'un homme, c'est le doute. C'est-à-dire que si dans l'Antiquité je m'étonne que les choses soient ainsi et pas autrement, si je veux voir comment est tombée la foudre, comment les choses, les êtres réagissent, eh bien il arrive un moment, ça correspond d'ailleurs à l'adolescence bien souvent, eh bien je remets en question ce qu'on m'a enseigné, je remets en cause ce que l'on m'a dit, et à ce moment-là, mon esprit, eh bien, essaye de comprendre par lui-même. Donc la deuxième étape, c'est cette période particulière où la remise en cause va permettre de cheminer vers la vérité. Alors la vérité, elle a deux sens en philosophie. Vous avez ce qu'on appelle la veritas, 1 plus 1 égale 2, c'est vrai. Et puis vous avez de l'autre côté ce qu'on appelle l'aletheia. L'aletheia, c'est ce qui se dévoile progressivement. Ça relève un peu de l'enquête. Et donc Descartes comprend qu'il y a une vérité scientifique qu'il peut lui-même développer, comprendre, envisager, mais que de l'autre côté, il y aura une vérité qui demandera un effort pour dépasser les apparences, les opinions, et pour aller voir derrière ce qui s'y passe véritablement. Et c'est comme ça qu'il va poser un décalage, en fait, une distanciation entre ce que les sens nous apprennent du monde et ce que l'esprit nous permet d'en démontrer. Je veux dire par là que lorsqu'il y a un arc-en-ciel, j'observe. Si je ne fais pas de science, je peux penser que quelqu'un a peint le ciel. Je peux même faire de la poésie et trouver ça magnifique. Mais ce n'est pas scientifique, puisque si j'ai fait de la science, j'arrive à comprendre finalement que ce n'est qu'un phénomène de réfraction de la luminosité du soleil sur des gouttes d'eau. Donc il y a quand même une grande différence entre la réalité scientifique qui se produit et le phénomène lumineux d'arc-en-ciel que j'observe. Eh bien Descartes, c'est ce qu'il a compris. Quand il prend un bâton qui le plonge dans l'eau, le reflet donne l'impression qu'il est rompu. Il le sort de l'eau, il se rend compte qu'il n'est pas rompu du tout. Donc il se dit, si je me fie uniquement à mes sensations, je vais forcément être contraint à l'erreur. C'est pour ça qu'il dit, tout ce que j'ai appris, tout ce que mes sens semblent me montrer avec une grande certitude, tout ça, je vais le remettre en question. Et c'est comme ça qu'il commence les méditations métaphysiques. En mettant tout en doute, il dit qu'il fait table rase de tout ce qu'on lui a enseigné et appris, parce qu'il veut recommencer à zéro. Alors là, la démarche intellectuelle, elle est spéciale, elle est rigoureuse, et en même temps, elle est très intéressante. Déjà, Descartes écrit sur le mode des méditations. Méditation, ça veut dire que je m'enferme dans mon bureau, je m'enferme en moi-même pour réfléchir. Ensuite, ça veut dire tout ce qu'on m'a appris, donc tout ce qui venait de la sensation, si je suis enfermée dans mon bureau, j'ai fermé les volets. C'est-à-dire que je me suis enfermée sur moi pour finalement penser la remise en question, la mise en doute de l'ensemble de mes connaissances. Et c'est une fois que j'ai pensé à balayer tout ça, c'est quand j'ai vidé, entre guillemets, mon esprit de tout ce qu'il croyait savoir, de tous ses préjugés, eh bien Descartes nous dit qu'on va entendre ce « je » qui pense. Et il nous dit, même si je pense faux, je pense quand même. Voilà. Et ça, c'est la grande démarche, en fin de compte, philosophique. On fait abstraction de la sensation, on fait abstraction des mathématiques, on fait abstraction de tout ce qu'on nous a toujours appris, on fait même abstraction du corps, parce que Descartes nous dit, après tout, ce corps, je peux rêver l'avoir, je peux être dans une fantasmagorie. Il nous dit même que c'est très difficile de... Je pourrais très bien, par exemple... J'actualise l'exemple, mais lui, il l'a formulé autrement. Je pourrais très bien être dans mon lit en ce moment, en train de me rêver, intervenant auprès de vous dans la librairie Filigrane, alors que finalement, je rêve. Qu'est-ce qui me permet de savoir que là, je suis bien dans une réalité concrète? Lui, il prend l'exemple, il dit, qu'est-ce qui fait que je peux ne pas douter que c'est bien moi, en robe de chambre avec mes pantoufles, qui écrit à mon bureau? Voilà l'exemple qu'il prend. Eh bien, il dit tout simplement que, finalement, c'est parce que lorsque je vais me coucher le soir et que je m'endors et que je rêve, le lendemain matin, si je n'ai pas rangé ma chambre, en quelque sorte, je retrouverai mes affaires là où je les ai posées. Tandis que lorsque je me couche à nouveau, le rêve suivant est différent du premier. Donc j'arrive à distinguer le rêve de la réalité parce qu'il y a des choses en discontinu dans le rêve. Le rêve s'arrête tout le temps, alors que la réalité que je retrouve chaque matin est identique à elle-même. Mais pour comprendre ça, eh bien, il passe par ce « je pense donc je suis », ce cogito, c'est-à-dire ce moment où, enfermé sur moi, j'arrive à entendre cette petite voix qui pense, cette petite voix qui parfois se trompe, parfois doute, parfois imagine, parfois crée même ses propres fantasmes, mais il n'empêche qu'elle est là, il n'empêche qu'elle est en train de penser. Et là où on se rend compte que notre Descartes, qui était le grand rationaliste, va devenir très surprenant, c'est qu'une fois qu'on a prouvé « je pense, donc je suis », il va bien falloir développer la suite, parce que « je pense, donc je suis », ça ne prouve rien. Et alors là, il a une idée extraordinaire, et il vous dit « je pense, donc je suis ». Alors il dit « une substance pensante », alors ça nous avance pas, on a l'impression d'un cerveau qui serait là, posé sur la table. Une substance pensante, oui, mais qui pense quoi? Et alors là, pour un grand rationaliste, on est très surpris, qui pense Dieu. Alors là, on est étonné, parce qu'on se dit, on entre dans la théologie et non pas simplement dans la philosophie. Eh bien, on va être dans une théologie rationnelle, c'est-à-dire dans l'être premier qui se démontre. C'est-à-dire que pour Descartes, eh bien, il faut poser l'idée de Dieu dans mon cerveau. Pourquoi? Parce que si je n'ai pas l'idée de Dieu dans mon cerveau, eh bien, je n'ai pas l'origine du monde, je n'ai pas le créateur. Je pense donc je suis, mais je ne suis rien si on ne m'a pas créé. Donc il fallait déposer dans l'esprit de l'homme l'idée de Dieu. Eh bien, comment parvient-il à la démonstration? Eh bien, on va prendre un exemple. Si aujourd'hui je vous disais, imaginons un extraterrestre. Vous me diriez, un extraterrestre, eh bien écoutez, ça a une tête, je vous dirais oui, un seul œil au milieu du front. Vous pourriez me dire que ça n'a pas des bras, ça a des tentacules comme un poulpe. Vous pourriez me dire que ça n'a pas de jambes, ça a des roues, que c'est ouvert. Dans tous les cas, vous seriez en train de me donner des idées de choses que vous connaissez déjà. L'œil, les roues, les tentacules, etc., etc. Ce qui fait qu'il n'y aurait rien de créé. Or, Descartes nous dit, vous êtes en train de me dire « je pense donc je suis », mais je pense à Dieu. Or, Dieu, quand je veux le définir, je dis que c'est un être infini, alors que moi-même je suis limité. Je dis que c'est un être éternel, alors que moi-même, dans le temps, j'ai aussi une durée qui est limitée. Je me dis aussi, en tout cas, on le définit comme étant le créateur, ayant une toute-puissance, alors que moi, bien, je peux être artiste, mais ce que je vais le créer de manière plus réduite, de la même façon qu'à un moment donné, eh bien, quand je vais penser l'ensemble des choses, eh bien, je les penserai toujours avec ma vision d'homme, alors que Dieu est tout en puissance, j'ai envie de dire. Et je ne suis pas créateur au sens strict du terme, je ne suis pas infini, je n'ai pas toute la science, omniscience, je ne suis pas omnipotente, c'est-à-dire en tout, donc nécessairement, tout ce que je sais de Dieu, ce n'est pas moi qui l'ai déduit. Ce sont des idées, donc, que Dieu a déposées en moi, et moi-même, je ne peux pas les avoir inventées. Vous voyez ? Je ne peux pas inventer un extraterrestre, sauf à partir d'idées sensibles. Dieu, je ne l'ai dans l'esprit qu'à partir d'idées complètement intelligibles, et ça, je ne peux pas l'avoir inventé. Donc, pour lui, c'est évident, puisque je ne peux pas inventer l'idée de Dieu, c'est que Dieu lui-même a déposé cette idée dans mon esprit. Et, bien évidemment, on peut faire un petit parallélisme. Quand vous achetez une œuvre d'art, elle est signée. L'artiste, le créateur, a signé son œuvre. Eh bien, Descartes explique presque que Dieu, créant le monde, signe dans nos cerveaux en déposant son idée. C'est-à-dire qu'on aurait pu avoir un tatouage marqué Dieu quelque part, en quelque sorte, si je veux faire simpliste, ça aurait été la signature de Dieu. Mais il ne l'a pas produite sur nous directement, il l'a gravée dans nos cerveaux. Donc on a compris, je pense donc je suis, je pense Dieu, si je pense Dieu, c'est qu'il existe. Eh bien ça y est, nous sommes rassurés, s'il existe, il a créé le monde, moi, mon corps, ma pensée, etc. etc. Et donc nous ne doutons plus. Alors c'est intéressant de penser cette étape de la philosophie. Alors, comme je dis, c'est intéressant, mais en même temps, je vous ai vu un peu bouger la tête parce que ça semble presque tiré par les cheveux, cette histoire. Parce que pour un rationaliste, il nous dit que c'est la preuve de l'existence de Dieu. Il va loin quand même. Mais il faut faire une petite distinction. On ne parle pas du Dieu de la foi dans sa toute-puissance, on parle du Dieu des philosophes. On est à la fin du XVIe siècle, début du XVIIe, c'est le moment de la philosophie classique, c'est le moment où on a besoin de Dieu comme concept pour démontrer l'existence du reste des choses. Donc il y a Dieu, l'homme et le monde. Voyez-vous ? Donc ces trois moments, ce sont les moments qui caractérisent la philosophie systématique de cette période de l'âge classique en philosophie. Alors, bien sûr, on pourrait contredire Descartes. On pourrait amener des contre-arguments, et ça a été fait, hein, Nietzsche avec l'argument du Dieu est mort, hein, il n'y a pas de problème pour ça. Mais c'est intéressant de comprendre quelle est la démarche intellectuelle de Descartes au moment où il produit sa pensée, et c'est intéressant de l'avoir formulée ainsi, à partir d'une pensée refermée sur elle-même, qui doute Parce qu'à un moment donné, eh bien, le monde doit être posé dans sa contradiction. C'est-à-dire que si on admet tout comme ça, sans qu'il y ait véritablement de remise en question, eh bien forcément, on intègre dans ses pensées des erreurs, on intègre aussi dans ses raisonnements des vérités relatives, et progressivement, ben, on s'achemine vers l'erreur. Voilà. Donc vous l'avez compris, première étape de la philosophie, l'étonnement, hein, le moment où l'enfant questionne, et il faut toujours rester enfant, nous conseille la philosophie. Deuxième étape, remettre en question toujours ce que l'on sait, de manière à progresser et cheminer. Et j'ai presque envie de vous dire, la science le fait. Vous avez Bachelard qui dit au XXe siècle, enfin fin 19e, début 20e, il vous dit, la vérité n'est qu'une erreur rectifiée. C'est-à-dire qu'en science, aujourd'hui, nous avons obtenu par des raisonnements des réponses, mais ces réponses doivent être remises en question pour que la science progresse, pour qu'elle chemine, et dans quelque temps, certaines théories scientifiques seront invalidées au profit d'autres pensées. Donc voilà, douter, remettre en question, être un peu dans la contradiction, eh bien ça symbolise, entre guillemets, cette période, je dirais presque, de l'adolescence de l'esprit, ce moment où on est un peu rebelle, et on peut être rebelle finalement aussi toute sa vie. Et on passera d'une étape à une autre, par moments on questionne, à d'autres périodes on est plus rebelle, mais dans tous les cas, l'important c'est de questionner toujours. Troisième moment de cette étape de la philosophie qui est essentielle aussi. Alors, bien sûr, il y a tout ce cheminement de l'histoire de la pensée. Descartes, c'est le rationalisme. On sait qu'avec le rationalisme, il y aura énormément de pensées systématiques jusqu'au moment où il y aura une rébellion à l'égard de ça. Le premier à se rebeller, c'est David Hume. C'est vraiment celui qui s'oppose à Descartes. Mais dans la filiation de David Hume, vous trouvez Kant. Kant, c'est celui qui va poser le criticisme. Le criticisme, en tout cas l'esprit critique, c'est celui qui va remettre en question eh bien, ces systèmes philosophiques tels que Descartes les avait conçus. C'est-à-dire qu'on remet en cause, en quelque sorte, la métaphysique. Tout ça, on chemine comme ça jusqu'au moment où on arrive à une vérité particulière, celle qu'évoquera Nietzsche et dont je parlais tout à l'heure, la mort de Dieu. Alors dire que Dieu est mort, il ne faut pas être dans un affolement comme ça, ce n'est pas le Dieu de la religion, vous l'avez bien compris. Il s'agit pour lui de dire que ce Dieu religieux posé, parce que c'est ça qui interpelle, par le monde religieux lui-même, eh bien c'est un Dieu qui est mort. Il veut dire par là que le Créateur, au sens du démiurge tel qu'on le posait dans l'Antiquité, celui-là, il ne s'y attaque pas en quelque sorte. Mais il attaque plutôt l'idée de Dieu tel que les hommes l'ont pensé, tel que les hommes l'ont fait. C'est-à-dire que pour lui, il imagine que finalement, par le biais du religieux, l'homme vit toujours avec le poids de la faute, ou il vit toujours avec une sorte de ressentiment. Il vit toujours avec une morale qui va l'étriquer, qui va lui poser des règles de manière absolue, et ça, pour lui, c'est trop compliqué, en fait. Et il considère que si Dieu est, c'est pas une tyrannie qu'il veut imposer aux hommes, mais bien au contraire, il veut expliquer les grands principes, l'ordre, et puis surtout, on revient toujours à cette idée du Dieu antique, c'est-à-dire celui qui est créateur et qui est, comment dire, qui est capable de passer de Dionysos, nous dit Nietzsche, et Dionysos, c'est celui qui, dès l'Antiquité, commence sur un air de fête. Vous savez qu'en Grèce antique, c'était le moment où on faisait la fête. Et on se déplaçait comme ça d'Athènes à Épidaure, là où on avait tous les rapports à la tragédie, et là, on était dans le monde d'Apollon. C'est-à-dire que Dionysos, c'est le dieu de la fête, on boit un peu de vin, on est le cœur léger et on chante et on danse. Et quand on arrive, en fin de compte, dans l'arène, quand on arrive dans ce lieu particulier où on va déclamer les vers, c'est-à-dire au théâtre, eh bien, on va devoir être suffisamment brillant pour qu'au moment où l'on parle et au moment où on déclame ces vers, eh bien, on rejoigne le règne d'Apollon. Et Apollon, c'est la beauté, c'est l'esthétisme. Voilà les dieux dont nous parle Nietzsche. Mais pas le dieu, si vous voulez, de la religion qui pose des limites, des règles, qui étrique l'homme. D'ailleurs, il prend l'exemple des métaphores. Hein. Il nous dit, il faut se penser chameau, lion et enfant. Chameau, pourquoi? Parce qu'avec le poids de la faute, il faut se charger. Et donc, comme un chameau, il faudrait dire, mettez du poids sur mon dos, mettez des sacs, mettez des poids. Et il faut aller dans le désert, il faut aller faire l'épreuve de la solitude quand on porte. Et il dit à ce moment-là, avoir une sorte de rébellion vis-à-vis de ça, pour pouvoir être lion, donner des coups de griffe en quelque sorte à ces idées qui nous étriquent, qui nous étouffent, qui nous empêchent de vivre. Ça ne veut pas dire qu'on part dans la débauche. Hein. Ça ne veut pas dire non plus qu'on est dans un manque d'humanité, pas du tout. Mais c'est pour dire qu'on refuse cet ordre religieux qui nous limite dans ce que nous voulons faire. Et à ce moment-là, on regagne un esprit d'innocent, on redevient l'enfant, celui qui est capable, en fin de compte, d'appréhender le monde autrement. Et appréhender le monde autrement, pour Nietzsche, c'est poser d'autres valeurs. Alors là, c'est intéressant parce qu'on aborde le dernier moment de cette étape de la philosophie. C'est ce moment où, vous savez, avec la mort de Dieu, on a trouvé des philosophies absurdes. Absurdus, ça veut dire ce qui est sourd. C'est-à-dire que ces philosophes qui ont eu, en fin de compte, la peur de la mort et qui posant Dieu est de nous, Dieu, avec Nietzsche, on vide le ciel, Dieu n'existe plus puisqu'il est mort. Eh bien, il va falloir se rattacher, ou en tout cas trouver des idées pour se sauver de ce désenchantement, de cette misère de l'homme. À ce moment-là, eh bien, vous avez toute la mise en scène avec Camus, vous savez, le mythe de Sisyphe. Hein, on pousse la pierre, quand elle monte, quand on arrive en haut de la montagne, elle retombe, il faut reporter la pierre. Et on a l'impression que cette peine éternelle va épuiser l'homme. Et puis on se rend compte que finalement, sa pierre, ça devient son projet. C'est lui qui pousse la pierre, c'est lui qui l'amène où il veut. Et s'il veut, quand il arrive en haut, c'est lui qui la pousse pour qu'elle descende plus vite. C'est lui qui court à côté. Et finalement, donner un sens à son projet, c'est redonner un sens à sa vie. Et c'est là qu'intervient Sartre, le dernier moment, à mon sens, de ces trois étapes de l'évolution d'un homme. C'est le moment de la responsabilité, le moment où je deviens homme et je suis responsable de moi-même, sans attendre du ciel une aide providentielle, sans attendre ou sans dire que l'autre doit faire à ma place. C'est là que je deviens responsable de moi-même. Et le deuxième intérêt aussi de cette philosophie sartrienne, c'est quand on pose le concept de choix dans la liberté. C'est-à-dire qu'il dit que nous sommes condamnés à être libres, ça veut dire, oui, si Dieu n'existe pas, si je suis seul au monde, si je suis jeté dans ce monde, il va bien falloir que je fasse quelque chose de moi. Et à partir de ce moment-là, je redeviens responsable, je repose la question autrement. Il ne s'agit pas d'une morale chez Sartre, hein, par contre. Il n'y a pas vraiment, quand il dit l'existentialisme est un humanisme, il ne faut pas s'imaginer une bonté particulière dans sa pensée. Mais quand il appelle humanisme, ça veut dire « je suis humain et j'existe ». Et plus urgent est le choix, plus je me dois de me décider. C'est-à-dire qu'il prend l'exemple de, vous savez, de celui qui se plaint et qui dit « voilà, oh, je n'ai jamais rencontré l'homme ou la femme de ma vie, j'ai toujours été seul ». Et à ce moment-là, Sartre lui répondrait « mais tu n'as jamais rencontré l'homme ou la femme de ta vie parce que personne n'a voulu de toi, tu étais insupportable ». Ensuite, oui, je n'ai pas été un bon écrivain, personne ne m'a lu, personne n'a compris ce que je voulais dire, donc je n'ai pas eu de succès alors que moi-même, je n'avais pas l'impression d'être un mauvais écrivain. Et Sartre dit, mais tu l'es, mauvais écrivain, sinon on t'aurait lu et tu aurais eu du succès. Il prend l'exemple aussi de l'homme qui vient d'apprendre qu'il est atteint de la tuberculose. Plusieurs manières de réagir. Je pleure, entre guillemets, sur mon sort, je dis, je vais mourir. Est-ce qu'au contraire, je me bats et à ce moment-là, je vais voir mon médecin, mais si je me choisis le patient de mon médecin et j'écoute ses conseils, je suis ce qu'il va me dire, parce que c'est lui qui a la science de la médecine. Ou alors, j'estime que je m'en moque, et puis je décide de profiter de la vie, je vends tous mes biens, et puis je pars aux îles, aux Caraïbes ou ailleurs, et je profite jusqu'à mon dernier souffle de l'existence. Mais dans tous les cas, je me choisis. Et il dit, plus urgent est le choix, plus je me choisis, parce que regardez, quand il ne se passe rien, quand on est tranquillement installé dans son salon, on va peut-être s'ennuyer, on va peut-être perdre toute une après-midi comme ça, alors qu'il y aurait tant de choses à faire. Alors que quand il y a urgence, quand on a, par exemple, je dis souvent à mes étudiants, quand vous avez un examen à préparer, 2-3 jours avant, c'est l'effervescence, alors qu'ils ont toute l'année pour travailler, pour le préparer. Enfin bref, tous ces moments particuliers nous montrent que c'est quand les situations se resserrent, quand on a l'impression qu'on a de moins en moins de choix, que véritablement, on exerce sa liberté, on exerce sa puissance de choisir. Et en même temps, même si on ne choisit pas, on a adopté une position. Si on dit « je ne sais pas, je me mets en retrait », on a droit d'être sceptique. Hein. Eh bien, ça veut dire qu'on a aussi décidé d'être comme ça plutôt qu'autrement. Voilà. Voilà la pensée, en fin de compte, de cet existentialisme posé par Sartre. Alors, c'est sûr que Sartre nous dit « oui, effectivement, moi j'ai une conscience, donc je peux poser la question « qu'est-ce que je fais là ?» alors que le banc, la plante, la pierre ne se posera pas la question. C'est sûr, Sartre le dit, mais c'est justement parce que je me pose la question « qu'est-ce que je fais là ?» que justement je vais vouloir donner un sens à ma vie. Parce qu'alors, dans ces cas-là, je n'ai plus qu'à attendre la mort, mais ça risque d'être long, Peut-être que ça sera plus rapide que ce que je le pensais. Mais en tout cas, il va falloir qu'entre ce temps où je suis née et le moment où je serai un être pour la mort, eh bien, je me décide, je me détermine, je me réalise et j'exerce en quelque sorte ma responsabilité dans le monde. Voilà comment s'exprime la pensée sartrienne. Donc, eh bien, c'est simple. Quand je pose la question « Pourquoi philosopher ?», ben, vous l'avez compris. D'abord parce que si vous philosophez, ou en tout cas si vous vous posez dans le monde en ayant une sorte de retrait comme ça sur les situations que vous vivez, ben, vous allez voir que vous continuez à vous étonner et vous gardez comme ça une espèce d'esprit vif, vigilant, on va dire. Et quand la vigilance est là, ben, c'est vrai qu'on a toujours ce regard d'enfant qu'on portera sur les choses. Ça permet d'être heureux. Deuxième aspect des choses, eh bien, douter aussi. Ça évite de devenir rapidement insupportable aux autres, parce que si on ne doute pas, ça veut dire qu'on est une espèce d'autosuffisance. Et puis, je crois que l'homme, s'il veut progresser, ben, il faut bien qu'il fasse preuve un peu d'humilité, que de temps en temps, il questionne, que ce regard se porte sur lui, ai-je bien fait, est-ce que j'aurais dû faire autrement, etc. Et puis, ce doute sera salvateur aussi, parce que parfois, suspendre son jugement, c'est aussi bon de ne pas avoir de réponse à donner. Aujourd'hui, vous remarquerez que dans notre société, tout le monde a son avis sur tout. Voilà. Alors, tout le monde critique les entraîneurs sportifs dans le football, mais quand on n'est pas entraîneur sportif, on peut pas critiquer, on ne sait pas. Alors, on va avoir une opinion sur la chose, bien sûr, mais tout le monde a son mot à dire sur tout, alors qu'il n'est pas spécialement qualifié dans le domaine en question, mais il faut que tout le monde parle, tout le monde s'exprime. Alors là, bon, c'est vrai que ça amène par le doute à une vigilance, peut-être un moment où on s'abstient parce qu'on ne sait pas, et puis en même temps, une période où on va essayer de mettre en confrontation des idées contraires. Et c'est comme ça qu'on va cheminer tranquillement. Et puis, bien sûr, la troisième étape, et d'ailleurs le titre du livre le dit bien, « Les chemins de la liberté ». Pourquoi philosopher ? Parce qu'une fois que j'ai dépassé cette étape du questionnement, de l'étonnement, parce que je veux comprendre, je veux savoir, une fois que j'ai passé cette période de doute où j'ai mis en confrontation ce que je croyais savoir, eh bien, au final, je deviens responsable, je me choisis, je me détermine et j'aborde l'existence d'un pied beaucoup plus léger. C'est ça, l'esprit de la liberté. C'est-à-dire que après, je revisite ce que l'on me présente à la télévision, Internet aussi. Parce que finalement, on se rend compte que Platon nous parlait, vous savez, du mythe de la caverne en disant « Les hommes sont tournés vers le fond d'une caverne et ils ne voient que des ombres ». Mais je vais vous dire, aujourd'hui, on n'a plus le fond de la caverne, mais on a des écrans, grande télévision, Internet, etc. On est dans une communication qui n'en est pas une, où on communique avec l'autre bout de la Terre très rapidement, mais on n'arrivera pas à dire bonjour à son voisin. Voilà. Donc, en quelque sorte, si vous voulez réapprendre à penser, c'est peut-être aussi reprendre possession de soi, être dans une sorte de résistance intellectuelle qui fait que finalement, on prend plaisir à discuter avec son voisin, plutôt que peut-être de perdre son temps dans des choses un peu plus utopiques. Et puis en même temps, on garde cet esprit qui interroge tout le temps. Et c'est peut-être ça aussi l'intérêt de la philosophie. Ce qui m'amène à vous dire qu'une fois que j'ai posé ces trois moments clés de la philosophie, j'amène le quand philosopher. Parce qu'une fois que j'ai dit pourquoi, il faut savoir quand, eh bien quand, il n'y a pas d'âge. Et j'ai réalisé, peut-être par mon parcours, mais pas seulement, qu'on s'interroge toujours quasiment sur les mêmes choses. Quel sens donner à sa vie ? D'où venons-nous ? Et entre guillemets, où allons-nous ? Et ces questions, si vous réfléchissez, c'est des questions que vous vous posez depuis l'enfance. Vous les avez formulées autrement, vous les avez pensées autrement, et puis finalement, vous vous rendez compte qu'à chaque période de votre vie, elles sont revenues, mais qu'en cheminant, en vieillissant, j'ai presque envie de dire, eh bien, vous avez répondu à ces questions de manière complètement différente. Eh bien, c'est peut-être ça aussi l'intérêt de la philosophie, c'est de questionner toujours, inlassablement, pour avoir toujours un esprit finalement en éveil, même si on vieillit, et puis reposer les questions. Voilà. Ce qui fait que dans la deuxième partie, je développe le potentiel qu'a notre jeunesse, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'est eux les clés de demain, mais je pose aussi l'essentiel de nos anciens, c'est-à-dire ce qu'on a un peu oublié. Autrefois, les anciens étaient au cœur de la cité, alors qu'aujourd'hui, on va les placer peut-être dans des maisons de retraite, on va moins se consacrer à eux, et finalement, eh bien, on perd un peu cette trame comme ça de filiation qui faisait que, eh bien, il y avait une oralité qui existait dans la famille. On racontait, les anciens racontaient comment ça se passait autrefois. Autrefois, c'est leur jeunesse, tout simplement. Donc, c'est pas si loin que ça. Et on se dit que la philosophie, c'est ça, c'est l'oralité au départ. Elle ne s'écrivait pas, elle se transmettait par les discours, par les contes, par les légendes, etc. etc. Donc, voilà comment intégrer l'idée d'une culture. Une culture philosophique, je vous l'ai dit, je suis dans l'idée d'écrire des essais. Donc des essais où, vous voyez, je suis en contact avec la critique, entre guillemets, des fast-foods, Internet, la télé-réalité, bien que je me sers d'Internet, mais avec un esprit critique. Je ne prends pas tout comme ça, sans vérifier, sans contrôler. Et c'est ce qui permet finalement de cheminer et de se rendre compte qu'on peut être tout à fait dans la modernité, l'un n'empêche pas l'autre, sans jeter tout ce qu'il y a eu d'ancien, et de la même manière que dans la modernité, on n'est pas non plus dans le refus de demain, c'est-à-dire qu'il y a aussi un projet, et se projeter, c'est aussi exister dans un futur plus ou moins lointain, dans lequel on a déjà rempli par des images, c'est-à-dire les souhaits et les projets même professionnels qu'on peut avoir ou familiaux, eh bien on a déjà rempli l'avenir de ce qu'on aimerait qu'il nous apporte. Voilà en fait le message que je transmets dans cet ouvrage « Pourquoi philosopher les chemins de la liberté ?». J'espère que ça vous aura éclairé sur mon propos. Juste un petit mot, puisqu'ils sont déjà parus sur le tome 2. Le tome 2, c'est « Voir et penser de l'œil à l'esprit ». Vous avez toujours le sous-titre qui est une réponse. L'œil organe qui regarde tout simplement et qui chemine comme ça. C'est-à-dire que le scientifique a cette chose extraordinaire qu'il est capable de voir le réel avant de le créer dans le laboratoire. Et quand il crée l'expérience, finalement, il ne fait que vérifier. C'est génial, un scientifique, quand ça pense, j'ai envie de vous dire. Et puis la deuxième chose, c'est que cet esprit qui pense, c'est aussi un esprit qui est pratique. Et moi, c'est mon côté un peu, guerrière ou stratège. J'adore cet aspect des choses. Athéna, c'était la déesse qui était issue de la tête de Zeus, qui avait comme armoirie un casque militaire, parce qu'elle était dans la stratégie. Elle n'était pas pour la guerre sanguinaire, mais celle où on réfléchit. Et en même temps, elle avait comme attribut la chouette, Athéna. Pourquoi la chouette? Eh bien, parce que la nuit, la chouette prend son envol, l'oiseau de Minerve, on dit, prend son envol au premier crépuscule. Quand les hommes vont s'endormir, elle voit. Toute la nuit, elle voit. Et au deuxième crépuscule, quand les hommes se lèvent, ils ont encore l'esprit endormi. La chouette, elle a déjà fait tout son travail de réflexion pour la nuit. C'est ça qui interpelle. Eh bien, voir, c'est aussi utiliser la stratégie, voir sans être vu, les militaires. Voir avec l'idée de la stratégie, les jeux d'échecs, etc. Donc je me suis amusée à faire des liens avec tout ça. Et puis en même temps, j'ai pensé à l'utilité. Voir dans le sport. Quand je joue au tennis, c'est très intéressant de me positionner, de penser les choses. Mais en philosophie, il fallait aller plus loin. Donc j'ai posé d'autres sports. Le parachutisme et la plongée sous-marine. Parce qu'on n'est plus droit, on est couché. On ne voit plus de la même façon. Vous voyez, être jeté d'un avion, entre guillemets, ou plutôt se jeter d'un avion, c'est à 4000 mètres. Et quand vous êtes sous l'eau, les repères sont complètement changés aussi. Et pourtant, l'esprit s'adapte très vite. Voyez ? Donc comment on change de repères visuels et de posture aussi ? Ça, je trouvais ça intéressant à développer. Puis après, bien sûr, la thèse du regard. Vous les connaissez chez Sartre. Hein ? C'est simplement la séduction. Et vous avez de l'autre côté le conflit. Et moi, j'ai placé un autre type de regard. Ce regard dérangeant. Parfois, on me dit, oui, mais tu regardes les autres avec tes préjugés. Je dis oui. Mais les autres aussi me regardent parfois avec leurs préjugés. Et il y a des regards comme ça, déviants, que les autres portent sur vous, surtout si eux ne se remettent pas en question. Donc j'avais envie de rendre aussi la possibilité de dire que ce n'est pas toujours moi qui ai quelque chose qui cloche, ou quelque chose de louche, comme disait Descartes. C'est aussi celui qui me regarde, qui ne me voit pas comme il faudrait. Et puis une fois que j'ai fait tout ce travail sur le moi, les phénomènes de miroir avec le regard, eh bien j'intègre bien sûr l'œil dans l'art. Alors vous vous doutez bien que, comme je suis dynamique et je suis pour le contemporain, eh bien, peinture, bien sûr, photographie. Je dis que le photographe fait mentir l'image. Je peux traverser Bruxelles en ne prenant que des photos de monuments ou de lieux qui sont, comment dire, absolument prodigieux. Comme je peux photographier tous les endroits les plus abîmés de la ville. Et je vous montre deux reportages complètement différents, deux points de vue sur une même ville. Donc, vous voyez, l'image a déjà son regard porté. Ça m'amène à parler bien sûr du cinéma, il fallait l'analyser aussi d'un point de vue philosophique. Et je termine par la posture de la danse, parce que je trouve que justement l'esprit léger, c'est Nietzsche ça, hein. L'esprit léger fait que finalement on s'élève, et une fois que l'esprit s'élève, eh bien on peut entrer dans ce regard introspectif, les oracles de Delphes, hein. Connais-toi toi-même et tu connaîtras et les hommes et les dieux. Et je termine mon tome 2 comme ça, sur ce regard qui redescend au fond. Et qu'est-ce qu'il trouve au fond? Le tome 3, le dieu des philosophes. Vous comprenez mon cheminement? Donc tout peut se lire dans le désordre, mais tout a un sens, malgré tout. Il y a une trame qui est la mienne. Et le tome 4 qui sort dans 15 jours, eh bien, c'est l'homme bouleversé. C'est-à-dire que si je n'ai pas trouvé de Dieu, quelle va être la réponse à mon désenchantement? Si je suis quelqu'un de passionné et de bouleversé, c'est-à-dire si je ne suis pas raisonnable, comment je vis? Comment je me projette dans les choses? Parce qu'il y a la philosophie, sois sage, tiens-toi tranquille, aime ton prochain, et puis il y a le moment où son prochain est insupportable, le moment où on est agacé, le moment où j'ai plus envie de lui dire que je l'aime. Tous ces moments-là, ce sont des choses que l'homme introduit dans son esprit et dans sa manière d'être, et parfois on est beaucoup plus loin de la philosophie que ce qu'on la pense véritablement quand on est dans la pratique. Donc ça, je voulais aussi l'aborder avec l'idée du désenchantement actuel, l'homme par rapport à la mort, etc., mais toujours d'un point de vue très dynamique, parce que moi, je suis toujours dans l'optimisme. Voilà, je suis pour une philosophie de terrain, une philosophie de l'action. Donc voilà pour le tome 4. Et puis, j'ai créé des concepts. Enfin, si ça vous dit, vous lirez, ça sera très bon.